Chapitre 14. La nouvelle bibliothèque municipale de San Diego, chef-d'œuvre de postmodernisme selon les uns, ratage complet selon les autres, abritait près de 50 000 mètres carrés de livres sur 9 niveaux, bien trop pour ce que cherchait Jane. L'endroit, trop surveillé à son goût, formait un labyrinthe dont elle aurait le plus grand mal à s'échapper en cas d'urgence. Elle s'était débarrassée de son ordinateur portable depuis plusieurs semaines déjà, sachant qu'il serait aussi facile à repérer que le GPS d'une automobile. Elle effectuait de préférence ses recherches Internet dans les bibliothèques des villes qu'elle visitait. Malgré cette précaution, elle veillait à ne jamais traîner longtemps au même endroit, surtout lorsqu'elle consultait des sites sensibles. Elle trouva une succursale de quartier de style espagnol, d'architecture banale mais honnête avec ses tuiles romaines, sa façade jaune pâle et ses fenêtres à petits carreaux. De plantureux bananiers battaient l'air de leurs feuilles en forme de pagaie autour du bâtiment, avec l'intention probable de remonter le temps à la rame, dans l'espoir de retrouver une sérénité oubliée. Le parking de la bibliothèque jouxtait un parc, traversé d'allées sinueuses, accueillant une aire de pique-nique et des jeux d'enfants. Conformément à son habitude, Jane se gara un peu plus loin dans une rue adjacente. Elle se munit d'un carnet, d'un stylo et de son portefeuille avant de glisser son sac sous le siège conducteur et de sortir de la Ford Escape. La bibliothèque de quartier comptait davantage d'allées bordées de rayonnages que d'ordinateurs. Elle s'installa devant l'un des écrans, à deux places d'un SDF à l'air inquiétant, dont la présence ne manquerait pas de rebuter les autres usagers à plusieurs mètres à la ronde. Des cheveux noirs hirsutes, tout droit tirés d'un balai de sorcière, une épaisse barbe de prophète de rue marbrée de blanc, comme si un éclair l'avait traversé un soir d'orage, des rangers à lacets, un pantalon treillis, une chemise de grosse toile verte et un épais blouson matelassé en nylon, le SDF à la carrure impressionnante avait manifestement réussi à s'affranchir des filtres installés par les équipes informatiques de la bibliothèque, car il regardait des vidéos porno dont il avait coupé le son. Sans manifester le moindre intérêt pour sa voisine, il fixait l'écran imperturbablement, les mains sagement posées sur la table, avec un air où l'ennui le disputait à l'étonnement. Certaines drogues consommées à haute dose pendant trop longtemps, l'ecstasy par exemple, préviennent la production des endomorphines naturelles du cerveau et empêchent les sujets concernés d'éprouver le moindre sentiment d'extase, de joie ou de bien-être sans l'aide de produits chimiques. Peut-être était-ce le cas de cet étrange personnage, dont le visage tanné et buriné, tel celui d'une statue, n'affichait aucune expression. Jane, en effectuant des recherches sur le site de l'Institut Gernsback, finit par dénicher la rubrique consacrée aux rencontres « si jamais ». À en croire la présentation, ce congrès annuel visait à « nourrir l'imaginaire des dirigeants dans le monde des affaires, des sciences, de la politique et des arts, afin d'encourager une réflexion ouverte permettant de penser des solutions inédites aux problèmes de l'humanité. » Des bienfaiteurs. Rien de tel pour des gens mal intentionnés que de se dissimuler derrière l'écran d'une association à but non lucratif, vouée au bien-être de l'espèce humaine. Si la majorité des membres de cet institut étaient peut-être sincères, cela ne les empêchait pas forcément de rester aveugles aux intentions cachées des fondateurs de l'organisation. Jane prit des notes afin de nourrir son enquête en usant de codes alphabétiques et numériques imaginés par ses soins, de façon qu'elle seule soit capable de les déchiffrer. Elle nota ainsi les noms des principaux responsables et des 9 administrateurs de l'institution, dont un seul, David James Michael, évoquait chez elle un souvenir. David James Michael, l'homme aux 3 prénoms. Il figurait quelque part dans ses notes. Elle prendrait le temps plus tard de les consulter. Lassée par le site porno, le SDF s'intéressait à présent à des vidéos de chiens postées sur YouTube, toujours sans le son, les mains à plat de part et d'autre de l'écran, ses traits burinés aussi impénétrables que le cadran d'une horloge. Jane ferma la session, empocha son carnet et son stylo, se leva, s'approcha de son voisin et posa deux billets de $20 sur sa table. « Merci d'avoir servi votre pays. » Il releva la tête et la regarda comme si elle s'exprimait dans une langue inconnue. Il n'avait pas les yeux injectés de sang et ne donnait pas l'impression d'avoir bu. Au contraire, son regard gris était d'une acuité intense. Comme il ne disait rien, elle tendit un doigt vers le tatouage qu'il portait au dos de sa main droite, une épée traversée par trois éclairs sur fond de pointe de lance, l'insigne des bérets verts. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Il montra du menton les $40.
Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi.
Il s'exprimait d'une voix rauque d'ours. Peut-être, mais je ne les connais pas, répliqua Jane. Vous n'aurez qu'à leur donner de ma part.
Sans problème.
Sans toucher au billet, il reporta son attention sur les vidéos de chiens.
Il y a une soupe populaire pas loin d'ici qui accepte les dons, précisa-t-il.
Jane se demanda si elle avait bien agi. Elle jeta un regard en arrière au moment de quitter l'alcôve, dans laquelle étaient alignés les postes informatiques, et se rassura en constatant qu'il ne la suivait pas des yeux.